Bonjour à toutes et tous. Si vous vous intéressez aux questions de défense et de sécurité, vous savez ce que représente le salon Eurosatory qui se déroule tous les deux ans à Paris. C'est cette année la 28e édition qui se tient du 17 au 21 juin prochain à Paris-Nord-Villepinte. Et Eurosatory, qui sponsorise cet épisode, sera comme à chaque fois le grand rendez-vous mondial de la défense et de la sécurité. Je veux juste dire, c'est un événement que je trouve très étonnant, assez fascinant. J'y suis allé pour la première fois il y a deux ans pour l'édition 2022. Et vraiment, si vous vous demandez ce qui se fait dans le monde militaire et en matière de sécurité, c'est là qu'on peut voir les dernières tendances, depuis les plus grandes geekeries et les innovations du moment, jusqu'aux grands équipements du futur pour les armées et les forces de sécurité en France et dans le monde. Bref, si vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatory.com. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur pour ce nouvel épisode dans le bunker où on se penche avec un invité sur des séries ou des films, en tout cas des médias qui touchent à la guerre ou aux faits militaires de manière générale. Je suis Alexandre Jublet et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être en ligne avec Élie Gucker, donc bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes journaliste indépendant, spécialiste notamment des questions de défense, vous avez travaillé pour Mediapart, vous avez travaillé aussi pour Conspiracy Watch sur la propagande russe, et c'est tout à fait intéressant pour ce dont on va parler aujourd'hui. Vous avez travaillé aussi plus récemment pour le média Disclose sur les ventes d'armes françaises à la Russie depuis 2014, et vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler d'une série qui est un peu particulière parce qu'elle est tellement réaliste, elle date de 2015 et en même temps elle est tellement réaliste qu'elle fait très bizarre de la voir ou de la revoir aujourd'hui. C'est donc la série norvégienne Occupied qui en est maintenant à sa troisième saison, qui a commencé, je l'ai dit, en 2015, qui est disponible sur Netflix et aussi sur Arte en ce moment. La troisième saison vient de sortir et qui raconte... Alors je vais faire un résumé très succinct, très rapide, mais globalement une invasion russe de la Norvège autour de l'idée que l'intrigue de base, c'est que un premier ministre norvégien veut arrêter l'exploitation de pétrole, veut arrêter l'exploitation d'hydrocarbures en mer du Nord, et que la Russie intervient, envahit une partie de la Norvège. En tout cas, au début, ils envahissent juste les installations pétrolières, et prennent le contrôle des installations pétrolières. Puis ensuite, dans les saisons suivantes, ça augmente de plus en plus, ce sera d'ailleurs intéressant d'en parler. Mais, invasion russe, donc, de partie de la Norvège, avec le soutien de l'Union européenne. L'Union européenne qui joue un rôle un peu trouble dans tout ça, puisque, en même temps, ils sont un peu embêtés de voir la Russie envahir, et puis en même temps, ils sont aussi bien contents que l'interruption, disons, dans la production d'hydrocarbures ne se poursuive pas. On en reparlera probablement. Alors, Élie, dites-nous peut-être... je l'ai dit, en fait, bon, évidemment, avec la guerre en Ukraine, c'est énormément d'actualité. J'y ai pensé tout de suite, et puis en même temps, je me suis dit peut-être qu'une histoire fictionnelle d'invasion russe d'un pays à la frontière de l'Europe, bon, c'est pas... peut-être que les gens ont envie d'entendre parler d'autre chose en ce moment, donc j'ai un peu hésité à le faire, mais puisque vous m'avez dit que vous l'aviez vu ou revu récemment, peut-être dites-nous, qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé au visionnage ou au revisionnage de cette série, donc Occupied?
Oui, alors effectivement, c'est pas la meilleure série pour se changer les idées en ce moment, mais au contraire, elle est très éclairante aussi pour comprendre des choses qu'on est justement en train de vivre. Alors moi, je l'avais déjà visionné donc les deux premières saisons à l'époque quand elles avaient été diffusées sur Arte. Et là, j'ai remarqué que quand l'invasion ukrainienne a débuté, il y avait une vidéo qui tournait sur les réseaux sociaux, qui est un extrait de la série, et qui est un discours de Jesper Berg, donc qui est le premier ministre norvégien écolo dont vous avez parlé, et qui fait un discours de résistance face à la Russie, avec des propos du genre « moi, je ne voulais pas la guerre, mais on est attaqué, donc il va falloir la faire ». Et voilà, c'était diffusé sur les réseaux sociaux avec plein de gens qui disaient c'est quand même marrant, ça ressemble beaucoup à un discours de Volodymyr Zelensky. Donc je m'étais dit il faut que je la revisionne à nouveau parce que ça fait longtemps et qu'il y a peut-être justement des choses qui sont à analyser autrement au regard de ce qui se passe actuellement. Et donc j'ai pu enfin visionner la troisième saison qui est malheureusement pas sortie en France. Et effectivement, c'est très frappant de voir à la fois les similitudes avec la situation qu'on est en train de vivre et en même temps les choses au contraire où les auteurs de la série avaient peut-être pas vu ou pas anticipé ou pas prévu.
Alors je trouve qu'il y a une partie qui est en tout cas très intéressante. Moi j'ai vu que, enfin je veux dire, j'ai vu que la saison 1 et puis j'avais pas le temps de compléter les trous avant qu'on enregistre. Mais ce qui est très intéressant, c'est la dimension énergétique, vraiment. On a l'impression que l'énergie dirige tout dans ce monde, dans cette Europe, que l'énergie dirige toute la géostratégie européenne et eurasiatique même, et que c'est l'approvisionnement en hydrocarbures mérite d'abandonner un pays européen aux griffes de la Russie. À la fois, je me souviens très bien, on m'a dit à l'époque c'est peut-être un peu excessif, puis en même temps, aujourd'hui, vu la situation en Ukraine, on mesure que... Bah, on n'y est peut-être pas encore, mais peut-être qu'on n'en est pas très loin quand même, que l'énergie ait cette place-là dans les conflits, dans les intrigues géostratégiques. Qu'est-ce que vous en avez pensé, disons, de ce qui est vraiment le thème de base, en fait, le thème central de l'intrigue ?
Oui, c'est ça, c'est la raison même du conflit qui fait la série, ce qui est évidemment pas le cas de la situation en Ukraine à l'heure actuelle. C'est pas un conflit qui est déclenché pour des raisons énergétiques. Ceci étant dit, il a des conséquences sur la politique énergétique de l'Europe qui sont quand même très très lourdes. Et là-dessus, il y a des choses dans la série qui sont frappantes. Là, je regardais avant de faire l'émission. Actuellement, la Norvège, c'est le troisième exportateur mondial de gaz naturel. Deuxième fournisseur de l'Europe. On est sur 20 à 25%. Juste derrière la Russie qui, elle, est à 45-50%. Et là, il y a eu, dès le déclenchement, il y a quand même eu un débat en Europe sur, bon, qu'est-ce qu'on fait, étant donné qu'on est dépendant du gaz russe. Que non seulement Vladimir Poutine peut très bien décider de couper le robinet et que de toute façon, entre-temps, on finance de fait l'État russe en achetant ses hydrocarbures. Et il y a même eu la Norvège qui a rassuré les Européens en disant « On va maintenir le niveau de nos exportations, on fait tout ce qu'on peut, on ne pourra pas beaucoup augmenter, etc. » Bref, tout ça pour dire que voilà, la dimension énergétique, quand même, dans le conflit en Ukraine, là, elle est quand même assez prégnante. Il y a aussi la question du Nord Stream 2, et puis la question qui vient de l'éventuelle corruption de certaines élites politiques en Europe sur ce sujet-là, notamment depuis un certain nombre d'années. Donc là-dessus, la série est quand même assez frappante, parce qu'effectivement, tout va tourner autour de ça. C'est-à-dire que les Russes, comme vous l'avez dit, ils attaquent parce que le Premier ministre écolo, en fait, décide du jour au lendemain de rompre la production d'hydrocarbures à destination de l'Europe. Il dit, voilà, on va passer au thorium, on pourra vous fournir de l'énergie propre pendant des années, mais en attendant, il va falloir que vous sevrez de nos hydrocarbures. Or, dans cet avenir proche qui est projeté dans la série, l'Europe est déjà en crise énergétique. Et elle ne peut pas s'en passer. C'est pour ça, effectivement, qu'elle va faire un petit deal avec les Russes pour que les Russes fassent un coup de force et contraignent les Norvégiens à maintenir leur production. Donc, effectivement, la dimension énergétique, c'est le point le plus intéressant de la série. Et j'ai envie de dire, ce qu'il y a peut-être de plus intéressant, fondamentalement, c'est que c'est politique. C'est qu'on a un Premier ministre, effectivement, qui a un grand projet de rupture, qui est élu démocratiquement pour le mettre en place, et qui n'a pas forcément pensé aux conséquences géopolitiques que ça pouvait avoir sur son pays.
Mais en même temps, ça nous montre, enfin, c'est une grande proximité, et en même temps, ça nous montre aussi à quel point c'est loin, et c'est fictionnel, et c'est une projection. C'était peut-être de la prospective en 2015, c'est-à-dire de l'idée que les énergies prendraient tant d'importance que ça, puisque dans la série, le propos, c'est que l'Europe et puis les acteurs mondiaux subordonnent tout à l'énergie. Et dans la situation actuelle, on est quand même dans une situation où on subordonne l'énergie, on essaye de s'adapter à la marge par rapport à la géostratégie et les conflits qui sont premiers. Mais justement, un deuxième point que j'aurais aimé parler, c'est ce qui est très intéressant, c'est alors, donc ça s'étend sur deux saisons, c'est assez long quand même, enfin c'est 45 minutes chaque épisode, je crois qu'il y en a une dizaine par saison. Et du coup, on voit très bien, c'est des espèces d'interactions, de micro-interactions, c'est des négociations permanentes entre les Norvégiens et les Russes par l'intermédiaire de l'ambassadrice qui est présente. En Norvège, et il y a un truc de position de force russe qui est très intéressante, qui est que on voit que le maître militaire, enfin les Russes ont une supériorité militaire, même si elle s'étend pas sur toute la Norvège en tout cas au début, et que En fait, les Norvégiens ont l'illusion de négociation, que c'est une cogestion de la situation. Et en fait, c'est une subordination éternelle et perpétuelle à celui qui est supérieur militairement. Bon, on le savait, c'est pas une grande révélation, mais ça dépeint très bien, en tout cas dans les détails même psychologiques, à quel point, bah, voilà, quand on est inférieur militairement, on prend les miettes que le plus fort veut bien laisser, quoi.
Ouais, et d'ailleurs, il y a un détail qui est important dans le pitch qu'on n'a pas mentionné là, mais c'est que dans cet avenir proche fictionnel, les États-Unis ont quitté l'OTAN. C'est-à-dire qu'au moment où il y a le coup de force en Norvège et que les Norvégiens se disent qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on répond militairement ou pas, rapidement quand même, ils se rendent compte que bah non, ils peuvent pas répondre parce qu'ils ont la force militaire russe en face et qu'ils sont tout seuls. Que les Américains ne viendront pas les aider. Et donc effectivement, ils se retrouvent dans une situation où officiellement, ils sont pas vraiment sous occupation russe, mais ils sont quand même mis de fait pour le coup sous tutelle vis-à-vis de leur politique énergétique. Et effectivement, très rapidement, on va se rendre compte que c'est quand même un petit peu les Russes, par le biais effectivement de l'ambassadrice Irina Sidorova, qui est un personnage assez intéressant, que c'est les Russes en fait qui commandent et qu'il n'y a pas réellement de négociation avec les Russes. C'est-à-dire que quand les Norvégiens essayent de faire un compromis avec eux, les Russes vont toujours demander plus en échange et en général quelque chose qui est très difficile, voire impossible à donner. Et effectivement, là, il y a pareil, une mise en abîme de l'attitude, notamment de l'Europe vis-à-vis de la Russie, ces dernières années jusqu'à l'invasion ukrainienne, où la France et l'Allemagne notamment ont jusqu'au bout été dans une optique de il faut discuter avec Vladimir Poutine, on va trouver une solution. Et voilà, effectivement, pour faire des négociations, faut être deux et faut que les deux aient envie de trouver un compromis. On voit bien dans Occupied que ça marche pas. C'est pas possible parce que les Russes ont un plan, ils ont la force militaire pour l'appliquer et en face d'eux, ils ont une victime plus ou moins consentante.
Et on peut même dire qu'ils ont un plan qui pour le coup, ne peut pas rappeler un peu ce qui aurait pu se passer au tout début de la guerre en Ukraine, puisque on peut signaler, bon, ça c'est vraiment pas un spoiler, mais le premier épisode, le tout premier, enfin, de la série commence par une sorte de décapitation de l'État norvégien, au sens où les Russes viennent kidnapper avec des forces spéciales le Premier ministre norvégien pour le faire changer d'avis. Ce qui, bon, forcément, rappelle un peu ce que les Russes auraient peut-être essayé de faire au tout début de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire directement aller essayer de renverser, se saisir de Zelensky d'une manière ou d'une autre. Il y a un truc de sa pré... Mais bon, c'est ce qui est, on pourrait argumenter que même en Ukraine, ça aurait pas été un si mauvais plan que ça sur le papier, mais en tout cas, il y a une sorte de parallèle, il y a une sorte de résonance qui est assez étonnante avec cette idée que, ben voilà, par des forces spéciales, on peut directement avoir des conséquences. On peut avoir une victoire politique en s'emparant des plus hautes sphères de l'État, quoi.
Ouais, et d'ailleurs, effectivement, là, on parlait de négociation, mais effectivement, il faut rappeler qu'il y a ce léger détail au début de la série, qu'effectivement, le Premier ministre annonce à la télé l'ouverture d'une centrale au thorium et la fin des hydrocarbures, et au moment où il prend son hélicoptère pour rentrer chez lui, il s'avère que dans l'hélicoptère, c'est des ravisseurs. Donc, pendant quelques heures, l'État norvégien n'a plus de nouvelles du chef de son gouvernement. Il a tout simplement disparu. Donc, c'est effectivement une prise d'otage et un coup de force, et en gros, ses ravisseurs lui disent voilà, il faut que vous rétablissiez la production d'hydrocarbures et on va venir s'en assurer. Et puis, bah, si vous êtes d'accord, on vous laisse descendre de l'hélicoptère. Donc, ça pose des termes de négociation qui sont quand même assez restreints. Et c'est d'ailleurs le Premier ministre qui va arriver tout de suite devant son gouvernement en disant non, non, on répond surtout pas militairement. Parce qu'en fait, ils nous ont déjà coincés. C'est déjà fini avant même qu'il y ait eu un quelconque coup de feu tiré. Et effectivement, quand on la regarde à l'époque, on se dit, bon, c'est quand même un peu gros, l'État norvégien, décapité comme ça, par une opération spéciale, par les Russes. Bon, ça fait un peu science-fiction. Et en réalité, on se rend bien compte, au vu de ce que les Russes, ont comme stratégie en Ukraine, mais aussi dans d'autres endroits depuis quand même 20 ans. qu'en réalité, c'est tout à fait plausible et que c'est, encore une fois, c'est la politique russe du fait accompli, en réalité. C'est que, bah voilà, eux, ils n'ont pas peur d'employer la force, y compris la force brutale, illégale, et donc, en l'occurrence, de décapiter un gouvernement, et que donc, bah ça, une fois que c'est fait, si on n'a pas la capacité de répondre militairement, on est quand même, on est foutu, en fait, tout simplement. Surtout s'il y a les Américains qui ne peuvent pas venir voler à notre secours.
Et enfin, peut-être dernier, mais en fait, c'est une dernière chose, mais c'est une partie très intéressante de la série qui, là, peut-être se déploie plus sur le long terme, parce que bon, ça, là, on a vraiment détaillé beaucoup l'intrigue initiale, parce que c'est intéressant, c'est le concept qui est évidemment intéressant, relu à la lumière de l'actualité. Mais ce qu'on peut voir, en fait, dans les deux saisons, enfin, surtout la première, c'est vraiment la naissance d'une résistance, la naissance d'une guérilla, d'une insurrection, en tout cas, de réseaux de résistance à l'intérieur d'un pays. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment assez fascinant parce que, enfin bon, on connaît, enfin, la résistance est quand même un thème déjà assez exploité au cinéma et à la télévision, mais souvent, il y a une espèce de mythique, de romantisme du maquis, des opérations, des coups de main, etc. Il y en a un peu dans la série, mais surtout, c'est une série qui montre très bien comment ça se constitue, comment une résistance apparaît autour de quelques personnages, comment ça se structure, comment il y a des logiques politiques à l'intérieur de ça qui sont en parallèle, un peu en décalage avec l'État officiel. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était un angle assez intéressant sur ce que c'est qu'une insurrection. Ça n'est pas que des partisans qui se cachent dans les fourrés, c'est aussi toute une sorte d'architecture politique qui se met en place petit à petit, et ça est Occupied. C'est ça que Occupied traite vraiment sur le long terme.
Oui, d'ailleurs, ce que moi j'ai trouvé très intéressant sur cet aspect, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas un traitement manichéen de la question de la résistance. C'est-à-dire qu'on ne les présente pas purement et simplement comme les héros de l'histoire. C'est même en réalité très ambivalent, parce qu'effectivement, comme vous le dites, on n'est pas du tout sur une insurrection dans le maquis. On est au contraire sur quelque chose qui se joue effectivement dans les hautes sphères de l'État. Sans spoiler les auditeurs, on va quand même découvrir qu'à un moment donné, y compris dans les services de renseignement, il y a des gens en fait qui n'acceptent pas la politique d'accueil des Russes du Premier ministre, et que d'ailleurs, ça va même être présenté comme un facteur de déstabilisation et potentiellement d'aggravation du conflit, puisqu'on va avoir le PST, donc le service de renseignement norvégien, qui va être chargé en réalité de travailler contre la résistance de son propre peuple pour s'assurer qu'elle ne fasse pas trop de mal aux Russes et qu'en retour, les Russes, du coup, augmentent leur présence militaire et leur force de frappe en Norvège. Il y a non seulement la question de l'insurrection dans Occupied, mais il y a aussi la question entre guillemets, de la collaboration, qui est pas anodine hein, dans l'imaginaire norvégien. C'est un pays qui a été envahi par l'Allemagne nazie, etc. Et il y a le personnage notamment de Bente Norum, qui est la compagne du journaliste d'investigation qui a forcément dans ce genre de série, qui a un restaurant et sa situation économique va pas bien. Et en fait, elle va se retrouver à faire un restaurant pour les Russes qui s'installent en Norvège. Et ça, pareil, ça va... se dérouler tout au long de la série parce que en faisant ça, elle va progressivement en réalité se détacher de la société norvégienne et en même temps, on peut pas terminer la série en se disant c'était juste une collaboratrice qui tirait de l'argent des Russes. C'était quelqu'un qui était dans une situation où elle aurait pu faire d'autres choix, mais où elle a choisi de faire ça parce que c'était dans son intérêt personnel à ce moment-là. Donc la série est quand même assez intéressante là-dessus parce qu'elle est pas, contrairement d'ailleurs à la critique qui avait été faite par la Russie à l'époque, elle n'est pas du tout manichéenne. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de gentil et de méchant. Il n'y a que des acteurs d'un côté comme de l'autre qui ont des intérêts et des objectifs propres et qui ne sont pas toujours convergents les uns avec les autres, quoi.
Justement, est-ce qu'on peut dire peut-être un mot de comment ça a été reçu à l'époque? Alors, bon, dans les pays européens, évidemment, on s'est dit c'est de la pure fiction, c'est absurde, jamais les Russes n'envahiraient un pays proche d'Europe comme ça. C'est... Évidemment, on peut voir à quel point on voyait juste à l'époque. Mais même, voilà, peut-être en Norvège, évidemment, et puis on sait que les pays nordiques ont une sorte de sensibilité à la question russe, puisque bah, ils ont des frontières en commun avec la Russie, et puis aussi, évidemment, en Russie, puisque... Bah, 2015, c'est aussi déjà le moment où on était dans une guerre d'influence, dans des opérations d'influence de la Russie dans le monde occidental. Donc comment est-ce qu'ils ont géré en quelque sorte cette voilà, ce discours qui, bon, est peut-être nuancé, mais en tout cas n'est pas extrêmement positif sur le rôle, disons, et géostratégique de la Russie, quoi.
Alors, eh ben, il y avait l'ambassade de Russie en Norvège qui avait officiellement réagi à la diffusion de la série. J'ai l'extrait sous les yeux là. Et donc, ils avaient dit, bien que les auteurs de la série tentent de souligner que c'est une fiction qui n'a soi-disant rien à voir avec la réalité, ce film traite de pays parfaitement réels et malheureusement, la Russie tient le rôle de l'agresseur. Il est certainement dommage que l'année du 70e anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, les auteurs aient apparemment oublié que l'armée rouge a contribué héroïquement à libérer le nord de la Norvège des nazis. Etc. Enfin bon, on ressort la guerre patriotique, etc. Et il les accuse de vouloir effrayer les spectateurs norvégiens avec une menace inexistante venant de l'Est. Donc bon, en gros, c'est pas étonnant, c'est la Russie qui dise pourquoi c'est nous qui avons toujours le mauvais rôle. Voilà, mais vous dites qu'on est une menace alors que non. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est la temporalité aussi dans laquelle sort la série, parce que effectivement, la première saison sort en 2015. Mais le premier épisode, il est écrit en 2008. Et 2008, on est juste après le fameux discours de Vladimir Poutine à Munich, où il déclare en fait ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il dit, bon, nous on estime avoir été humiliés par l'Occident et par les Américains, on a peur pour notre sécurité et donc on va réagir. Et puis 2015, évidemment, c'est juste avant, quand même, juste après, pardon, l'annexion de la Crimée. Donc au moment où les Russes font ce communiqué et disent écoutez, on n'est quand même pas méchants, il y a déjà les signes, quand même, d'un retour, on va dire, agressif de la Russie. Il y a aussi eu la Tchétchénie et la Géorgie entre-temps. Et on est déjà dans ce déni-là, quelque part, de que si on dénonce ça, c'est de la russophobie, cette idée de la menace russe qui serait exagérée. C'était ce que disait Serge Halimi dans Le Monde diplomatique, par exemple, à l'époque. Il avait accusé Arte, en diffusant la série, de faire de la russophobie et de faire peur aux gens avec la menace russe.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Elie Gucker. Donc, on recommande vivement le visionnage ou le revisionnage de cette excellente série Occupied, qui est donc disponible sur Arte ainsi que sur Netflix, et qui traite donc dans un monde tout à fait fictionnel et tout à fait qui n'a aucun lien ni ressemblance avec une situation réelle de la Russie qui déciderait d'envahir pour des raisons géostratégiques un pays européen. Merci beaucoup, Elie Gucker. Je peux évidemment renvoyer vers, par exemple, votre compte Twitter, et puis d'une manière générale, c'est de là qu'on trouve tous vos articles. Donc je l'ai dit avec récemment une très grande enquête sur les ventes d'armes de la France à la Russie. Merci beaucoup.